Chapitre 6. Quand on entre dans l'église San Domenico à Sienne, on aperçoit immédiatement à main droite une porte donnant accès dans une petite chapelle fermée située un peu au-dessus de l'église elle-même. Dans l'ancien temps, cette chapelle était ouverte. Seules quelques ogives, dont on voit encore les restes, la séparaient de la nef centrale. Un escalier y conduisait, et lorsque les ogives furent murées, on en respecta quelques marches qui se trouvent encadrées dans le mur et sous lesquelles on peut lire cette vieille inscription. Catherine montait ces marches pour venir prier le Christ son époux. C'est la Capella delle Volte, dont il est si souvent fait mention dans l'histoire de Sainte Catherine. Les Montelate y tenaient habituellement leurs réunions. Et c'est là qu'un dimanche après-midi de l'année 1363, en présence de toutes les sœurs assemblées, Catherine reçut des mains du père Bartolomeo Monducci la robe blanche, la ceinture de cuir, le manteau noir et le voile blanc. En rentrant de l'église, raconte Raymond de Capoue, elle se dit à elle-même « Voici que tu es entrée en religion. Tu ne dois plus vivre comme tu l'as fait jusqu'ici. La vie séculière est passée. Une vie nouvelle s'ouvre devant toi. Tu dois te ceindre d'une souveraine pureté, ainsi que le signifie la robe blanche que tu portes. Tu dois ensuite mourir complètement au monde. Ton manteau noir le montre ouvertement. Et désormais, il te faudra marcher dans la voie étroite où si peu d'âmes osent s'engager. » Quand elle se retrouva seule dans sa cellule, elle eut une vision significative. Elle vit un arbre immense, chargé de fruits magnifiques, au pied duquel se trouvait un buisson d'épines si haut et si touffu qu'il paraissait malaisé de s'approcher de l'arbre et d'en cueillir les fruits. Un peu plus loin s'élevait une petite colline couverte de blé qui déjà blanchissait pour la moisson et qui était fort beau d'aspect, mais dont les épis vides tombaient en poussière entre les mains dès qu'on les touchait. Puis elle vit une foule de gens qui passaient en cet endroit s'arrêter devant l'arbre, considérer les fruits avec envie et tenter de les atteindre. Mais les épines les blessaient et il renonçait promptement à franchir la haie. Alors, tournant leur regard vers la colline couverte de moissons, ils s'élançaient dans cette direction et se nourrissaient du mauvais blé qui les rendait malades et les privait de leur force. Et d'autres venaient encore, qui avaient plus de courage que les premiers. Ceux-ci franchissaient la haie, mais en approchant de l'arbre, ils s'apercevaient que les fruits pendaient très haut, et que le tronc était lisse et d'un accès difficile, et eux aussi continuaient leur route pour aller se nourrir du blé décevant qui les affamait davantage encore. Finalement, il en survint quelques-uns qui, se décidant à travers le fourré d'épines et à monter dans l'arbre, cueillirent des fruits et les mangèrent, ce qui les fortifia de telle sorte dans leur âme qu'ensuite ils éprouvaient du dégoût pour toute autre nourriture. Catherine Caffarini fut saisie d'étonnement à la pensée que tant d'hommes fussent assez sots et assez aveugles pour aimer et suivre le monde trompeur plutôt que de se livrer à Jésus-Christ qui nous invite et nous appelle et qui, dès l'exil, console et réjouit ses serviteurs. Car cet arbre, elle l'avait bien compris, représentait le Verbe éternel incarné, dont les fruits délicieux sont toutes les vertus, tandis que la colline, qui ne produit pas de bon blé mais de l'ivraie, représente les champs dorés du monde que l'on cultive en vain avec grand effort. Ceux qui s'éloignent de l'arbre dès que les épines se font sentir sont tous ceux qui se prétendent incapables de mener une vie pieuse et y renoncent dès l'abord. Ceux qui leur succèdent et se laissent effrayer par la hauteur de l'arbre sont ceux qui entreprennent avec énergie et bonne volonté l'œuvre de leur sanctification, mais qui se découragent et manquent de persévérance. Les derniers venus sont les vrais croyants, qui sont affermis dans la vérité. Cette vision contient déjà l'idée fondamentale que Catherine devait développer d'une manière plus large et plus profonde dans les années suivantes. Ainsi qu'elle le pressent, l'homme est placé entre deux puissances rivales, qui l'une et l'autre sollicitent son amour. L'une de ces puissances, c'est la vérité, la vie, la paix, la joie et la béatitude. L'autre, c'est le monde, le mirage satanique toujours trompeur et décevant du démon. D'aucuns prétendent que cette doctrine provient du bouddhisme ou de la philosophie de la Grèce antique et qu'elle tire son origine des enseignements de Sakyamuni ou de Platon et de Plotinos. Elle prend sa source dans l'Évangile et se trouve dans le Nouveau Testament. C'était déjà une conviction avérée dans le christianisme primitif qu'il y a une éternelle inimitié entre Dieu et le monde, entre les enfants de Dieu et les enfants du monde. Les disciples de Jésus ne sont pas du monde, et c'est pourquoi le monde les hait. La foi chrétienne triomphe du monde. Le propre des chrétiens est de n'aimer ni le monde ni les choses du monde. L'amour du monde est l'antithèse absolue de l'amour de Dieu. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. L'Église catholique a fidèlement conservé à travers les siècles cette doctrine évangélique et apostolique. C'est la doctrine de saint Augustin sur les deux cités. C'est la doctrine du mysticisme dominicain sur les deux amours. C'est la doctrine de saint Ignace de Loyola sur les deux étendards. L'âme douée de raison devient impure quand elle donne son amour aux choses temporelles et se livre à elles, écrit saint Thomas d'Aquin. Mais elle se purifie quand elle aspire à celui qui est au-dessus d'elle, c'est-à-dire à Dieu. Et le principe de cette purification, c'est la foi. Lorsqu'Henri Suzeau, le disciple de Thomas d'Aquin, parcourait inlassablement les cités, c'était ainsi qu'il le disait lui-même pour attirer les cœurs de l'amour temporel à l'amour éternel, pour les dégoûter de l'amour éphémère et leur faire aimer l'amour sans fin. Dans l'homme, tout vient du cœur, et le cœur n'est jamais oisif. Ni le Créateur, ni les créatures ne peuvent être sans amour, chantait Dante. Nous ignorons si Catherine avait lu Dante, qui était pourtant étudiée dans le cercle de ses disciples. Mais elle dit en termes presque identiques « L'âme ne peut pas vivre sans aimer ». Tout dépend du choix de l'amour, car il faut aimer ou Dieu ou le monde. Or l'âme s'unit toujours à ce qu'elle aime, étant s'y conformée. Mais si l'âme aime le monde, elle ne rencontre que souffrance, puisqu'il ne peut produire que les épines acérées des tribulations. L'âme est alors toujours triste et devient insupportable à elle-même. Dieu, au contraire, est l'éternelle suavité, et l'âme qui le reçoit par la grâce trouve ses désirs satisfaits, car elle ne peut être rassasiée que par Dieu, qui seul est plus grand qu'elle, tandis qu'elle est supérieure à toutes les choses créées. Dès lors, le monde ne peut rassasier l'homme puisqu'il lui est inférieur. Nous n'avons pas été créés pour manger de la poussière. C'est ce que voulait exprimer saint Augustin par cette parole célèbre. Notre cœur est inquiet, ô mon Dieu, jusqu'à ce qu'en toi il se repose. Ce sentiment emplissait déjà l'âme de Catherine. Mais il devait s'y fortifier par la lutte, par l'abnégation et par l'immolation de son moi. Elle consacra 3 années de sa jeunesse à se familiariser avec lui, à détacher son cœur du monde pour l'affermir pleinement en Dieu. Pendant ces 3 années, elle vécut à son propre foyer comme dans un désert, ne parlant que selon la plus stricte nécessité à ses proches et à son père spirituel, qui était toujours Tommaso della Fonte, et observant de son mieux le grand silence des cisterciens, le silence qui joint à la solitude a toujours été un climat favorable pour les progrès spirituels. La parole distrait et dissipe, la parole blesse et flétrit, tandis que le silence fortifie, recueille et purifie. Le silence guérit toutes les blessures de la parole, protège et repose. Catherine se taisait donc et vivait en solitaire. Chaque matin, elle franchissait la courte distance qui la séparait de San Domenico pour aller entendre la messe. Et ensuite, elle restait dans sa chambre où on lui portait la frugale nourriture qui lui était indispensable et qu'elle prenait assise sur son banc, arrosant son pain de larmes de repentir. S'il y en avait de reste, les pauvres, rassemblés devant sa fenêtre, pouvaient compter dessus. C'était un soir, durant cette période de solitude et de silence. Catherine rentra dans sa cellule et ferma la porte et la fenêtre. La pièce n'était éclairée que par la faible lueur de la lampe, toujours allumée devant le crucifix et les saintes images de la Vierge, de Marie-Madeleine et de Saint-Dominique. Trop lasse pour prier, Catherine s'assit en face d'elle sur le banc. Elle revenait de San Domenico que l'on fermait après l'Ave Maria. Elle y était restée la dernière et ne s'était retirée que parce que le sacristain, fort impatient de verrouiller l'église et d'aller souper, avait longuement agité d'une manière significative son trousseau de clés. On commençait à se dégoûter un peu d'elle, là-haut à San Domenico, et à trouver qu'elle faisait bien des embarras. Au lieu de rentrer chez elle, sitôt après la messe comme les autres, Mantellate, elle demeurait dans la capella del Votte, récitant d'interminables prières. La piété et le recueillement sont certes louables, mais Catherine était presque inconvenante lorsque, agenouillée à la table de communion avec les autres sœurs aux figures ridées, elle tournait son jeune visage vers le prêtre, tandis que ses joues s'empourpraient d'une rougeur excessive et que son front s'emperlait de fines gouttelettes. Il arrivait aussi qu'après avoir reçu la Sainte Hostie, elle éclata en sanglots. Le père Tommaso lui avait interdit ses larmes dans l'église. Mais Catherine s'était très humblement accusée de ne pouvoir les retenir. Souvent, agenouillée contre un pilier, le visage blanc comme la neige, elle restait ravie hors d'elle-même, ne voyant rien, ne sentant rien, n'entendant rien. Un jour, comme elle ne reprenait pas ses sens et que les cris poussés à ses oreilles demeuraient impuissants et qu'on lui pinçait en vain les bras, deux frères la saisirent résolument et la transportèrent au dehors. Les coups de pied que lui donnaient les passants la réveillèrent enfin et elle se trouva étendue sur le pavé devant la porte fermée de l'église, exposée au brûlant soleil de midi. Et cependant, elle eut tant aimé rester le plus longtemps possible à l'église, car la cellule où elle avait autrefois trouvé la paix et la consolation ne lui offrait plus la même sécurité. Le paradis s'était fermé pour elle et l'abîme s'était entrouvert, livrant passage à des nuées d'esprits malins. Catherine était âgée d'environ 16 ans lorsqu'elle devint Mantellata, et sa vie solitaire se prolongea jusqu'à ce qu'elle eût atteint sa 19e année. À cet âge, une Italienne est déjà une femme faite, et il était impossible que Catherine ne s'en ressentît pas. Un nouveau et rude combat, un suprême et décisif effort sur elle-même, lui restait à accomplir. Déjà, elle avait triomphé de son cœur. Il lui fallait encore triompher de ses sens. En pénétrant dans sa cellule, Catherine avait entendu un bourdonnement, comme lorsque vers le soir on entre dans une cuisine et que toutes les mouches s'envolent. Elle savait que ce n'étaient pas des mouches, mais bien les démons qui avaient attendu son retour et qui maintenant agitaient leurs ailes. Jour et nuit, ils voltigeaient autour d'elle, importuns, impertinents, intolérables comme des mouches, sans jamais lui laisser de repos. Ils avaient recours à 1000 procédés pour s'approcher d'elle. Ils prenaient 1000 voix différentes pour lui parler. Voici que retentissait à son oreille un son grêle et ténu, semblable aux accords d'une mandoline qui sournoisement lui insinuait. « Pauvre petite Catherine, pourquoi te faire souffrir ainsi ? À quoi bon le jeûne, la chaîne de fer que tu portes autour de ta taille, la discipline avec laquelle tu flagelles tes blanches épaules? Pourquoi ne dors-tu pas comme les autres hommes? Pourquoi ne bois-tu pas, ne manges-tu pas d'une façon régulière et substantielle, tout en gardant une juste mesure? Crois-tu en vérité que tu pourras persévérer dans cette voie? Et quelle est ton intention? Veux-tu être meilleure que les autres? En ce cas, tu es orgueilleuse. Et d'ailleurs, as-tu réfléchi que tu ne fais que te tuer lentement? Tu commets tout simplement un suicide, ce qui est un péché mortel et irréparable, en sorte que tu n'auras joui de rien ici-bas et que la damnation éternelle sera ton partage dans l'autre monde. Ah, suis plutôt mon conseil, Catherine. Arrête-toi avant qu'il soit trop tard. Tu es sans doute un peu affaiblie par de si nombreuses austérités, mais tu es assez jeune pour qu'il soit possible d'y remédier. Tu peux redevenir forte et bien portante, comme lorsque, dans ta première jeunesse, tu montais un sac de blé de la porte de la maison jusqu'au grenier. Vis comme les autres femmes, prends un beau et bon mari, aie des enfants, et sois une heureuse épouse et une heureuse mère. Cela ne t'empêchera nullement d'être bonne et pieuse. Pense à Sarah, à Rebecca, à Rachel et à tant d'autres femmes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ainsi, il exhortait la voix bienveillante et des images familières se représentaient à son esprit. Le foyer, le ménage, les enfants. Catherine, en arpentant sa cellule, semblait découvrir combien elle était sombre, étroite et solitaire. À quelques pas seulement au pied de la colline se trouvait Fontebranda, où des femmes se reposaient un moment près de la fontaine, tandis que leurs cruches s'emplissaient en causant de leurs achats, des prix du marché, du repas du soir. Et au dehors de la porte s'étendait la vallée de Vallepiata, pleine de chansons d'amour, telle qu'elle est encore aujourd'hui par les tièdes soirées d'été, à l'heure où les lucioles dansent dans les sombres taillis et au-dessus des champs de maïs enténébrés, à l'heure où les petites grenouilles vertes lancent du fond des prairies leur rythme nuptial, aussi clair qu'un tintement de cloche, à l'heure où les mères se tiennent sur le seuil des maisons, tandis que les gros marmots s'asseyent dans la chaude poussière blanche de la route, et que les jeunes filles, bras dessus, bras dessous, descendent dans la vallée où elles rencontrent des jeunes gens qui chantent d'une voix forte et vibrante. Elles leur répondent, et l'un et l'autre cœur se réunissent pour lancer un triomphant « Amore, amore ». Des visions comme celle-ci ont pu hanter la jeune Italienne dans la cellule sombre et déserte qui donnait sur la petite ruelle puante derrière la maison de Giacomo Benincasa. Mais Catherine n'était pas une sentimentale. La volonté qu'elle tenait de son père dominait la fougue qu'elle tenait de sa mère et elle voulait rester fidèle à la promesse faite à son épouse céleste. Dût-elle même la conduire en enfer comme le prétendait l'esprit du mal? Son sauveur avait choisi de vivre dans la souffrance. Elle désirait l'imiter et les suivre sur la croix afin de pouvoir entrer avec lui dans la gloire. N'avait-elle pas récemment entendu une voix du ciel parler à son cœur et dire « Si tu veux être forte dans les combats, il faut qu'à tes yeux toute douceur devienne amertume et que toute amertume te soit douceur. » Le tentateur se tut pendant un moment. Mais bientôt, il se rua de nouveau à l'assaut. Le son de sa voix se faisait de plus en plus persuasif, pénétrant jusqu'au plus bas fond de l'être humain, là où il se confond avec l'animal. Un grand silence s'établit autour de Catherine. L'air qui l'environnait devint lourd et brûlant. Aucune voix ne se faisait plus entendre, mais elle voyait encore, voyait, voyait. De quel côté qu'elle se tourna, elle apercevait devant elle des hommes et des femmes à demi nus. Catherine ferma les yeux, mais ses visions la frappaient encore derrière le voile de ses paupières. Désespérément, elle fixait son regard sur le crucifix. Les formes aériennes dansant comme des elfes le dérobaient bien vite à sa vue et lui faisaient des signes et chuchotaient à son oreille. « Fais comme nous !» Catherine, au désespoir, se défendait de son mieux. Mais les obsédantes images se représentaient toujours, et de nouveau la voix diabolique s'éleva, douce et railleuse, lui sifflant à l'oreille. « Eh bien, Catherine, que vas-tu faire? Crois-tu que tu puisses tenir bon davantage? Et même si tu y parvenais, nous continuerions à te tourmenter jusqu'au jour, jusqu'à l'heure de ta mort, jusqu'à ce que tu cèdes et deviennes nôtre. Et comme Méphisto, Phélès, comme le Brocken, d'un bond, le tentateur s'élança au milieu des jeunes sorcières et les entraîna dans un tourbillon de danse effrénée. Jamais la jeune fille ne s'était sentie si proche de l'abîme, et peut-être éprouvait-elle le vertige, mais par un suprême effort de volonté, elle repoussa une dernière fois l'ennemi. « Tes menaces ne m'effrayent pas, s'écria-t-elle, car j'ai choisi les souffrances pour mes délices. Et même si mon Créateur doit me damner, je ne veux pas un seul instant cesser de le servir. Je mérite l'enfer ayant maintes fois offensé notre Seigneur, et s'il me condamne au supplice éternel, ce ne sera que justice. Je lui appartiens en toute chose et ne veux servir que lui seul. Par moi-même, je ne puis rien, mais je mets ma confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Confido in domino nostro Jesu Christo. » Dès que ce nom, au-dessus de tout nom, eut été prononcé, Catherine sentit le terrain s'affermir sous ses pieds et le fascinant abîme disparut. Alors, elle continua de répéter le nom sauveur devant lequel tout genou fléchit même en enfer, le disant et le redisant sans cesse, de même que le soldat brandit une luisante épée ensanglantée et se fraye un passage à travers les lignes ennemies. Il y eut comme une fuite éperdue d'êtres invisibles. L'air redevint léger et pur, une éblouissante clarté illumina la pièce, et dans ce rayonnement apparut notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, couvert de sanglantes blessures. « Ma fille Catherine, murmura-t-il, enflammée d'amour, inondée de larmes, elle se prosterna à ses pieds. Ô bon et doux Jésus, où donc étais-tu, tandis que mon âme était en proie à de tels tourments ? J'étais dans ton cœur, Catherine, fut la douce réponse, car je ne m'éloigne jamais que de ceux qui les premiers s'éloignent de moi. Dans mon cœur, Seigneur, au milieu de toutes ces tentations et de ces visions impures ? Demanda la jeune fille étonnée. Si tu étais dans mon cœur, comment n'en avais-je point conscience ? Comment pouvais-je être près du feu sans me tenir réchauffée par sa flamme ? Or, je ne ressentais que froideur, désolation et amertume, et il me semblait être pleine de péchés mortels. « Dis-moi, Catherine, reprit le Seigneur, ces tentations te causaient-elles de la joie ou de la peine ? Ah, je les avais en horreur, et elles me désespéraient affreusement. Et pourquoi en était-il ainsi ? Crois-tu que si je n'eusse été dans ton âme et n'avait pas fermé toutes les portes de cet asile, ces mauvaises images n'y auraient point pénétré ? J'étais dans ton cœur, de même que j'étais sur la croix, souffrant et cependant heureux. Tu ne sentais pas ma présence, mais j'étais là avec ma grâce. Et quand tu offris spontanément de supporter tous les tourments et même la damnation éternelle, plutôt que d'abandonner mon service, tu fus délivré. Car je ne prends pas plaisir à torturer une âme, mais je me réjouis lorsque, pour l'amour de moi, elle consent à souffrir et à persévérer dans la souffrance. C'est pourquoi, dorénavant, j'aurai avec toi une plus grande intimité et te visiterai plus souvent. » Jésus disparut, et Catherine demeura seule, le cœur palpitant d'extase. La nuit était profonde. Là-haut, à San Domenico, sonnait les matines. C'était pour Catherine le signal ordinaire du repos. Depuis qu'elle était Montelata, il lui semblait de son devoir de veiller et de prier, tandis que ses grands frères, les dominicains, dormaient. Et quand les cloches carillonnaient ainsi d'une façon consolante et solennelle dans la nuit obscure, elle lui annonçait que maintenant, ils étaient réunis au chœur sous les cierges allumés, revêtus de leurs manteaux et prêts au combat, telle une phalange de lumière luttant contre les ténèbres. Et bientôt, elle fut étendue sur sa rude couche, la tête appuyée contre les marches de briques. Déjà, elle sentait une vague torpeur l'envahir. Mais ce à quoi elle pensait toujours et qui la réjouissait le plus, c'est que le Sauveur, cette nuit, l'avait appelée sa fille. Dans son sommeil, encore ses lèvres remuaient faiblement et avec un sourire radieux, elle se répétait à elle-même « Figlia mia, Catarina, figlia mia ».